Allez, on passe à la suite donc de ce journal. Comme je vous le disais, on va retrouver donc la chronique numéro 78 réalisée par Michel Favré, la chronique Astro.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Bonjour Michel Favré.
Bonjour Sandrine.
Bonjour et puis merci d'être encore avec nous pour une nouvelle saison puisque je le disais au sommaire de ce journal, on en est à la chronique numéro 78. Donc je ne sais pas ce que, donc à savoir une fois par mois, normalement en fin de mois d'ailleurs, vous venez le dernier mercredi du mois, exceptionnellement là vous ne pouviez pas. Donc on
oui,
est
depuis quelques mois on est un petit peu décalé à cause des histoires de confinement, tout ça, il a fallu faire des décalages dans le calendrier et c'est le premier mercredi du mois, mais comme je le dirai à la fin de la chronique, normalement, on va se recaler fin septembre.
Voilà, donc on va remettre les choses à l'heure là d'ici fin septembre. Ça reviendra sur le dernier mercredi du mois. En tout cas, merci encore pour cette nouvelle saison d'astronomie. En plus, on est sur une période assez riche où les gens se passionnent d'ailleurs pour l'astronomie. Je pense à Thomas Pesquet que vous m'avez fait remarquer qu'on entend dans ce générique d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, alors pour cette chronique numéro 78, on commence par parler du programme lunaire américain Artemis, il me semble, donc une nouvelle bataille pour la Lune.
Oui, effectivement, mais contrairement à la course vers la Lune des années 1960-70 qui opposait des nations, et on pourrait même dire des systèmes politiques, avec d'un côté les USA qui ont fini par l'emporter, et de l'autre les Soviétiques, l'URSS, qui avait un programme lunaire très avancé aussi, l'affrontement actuel concerne des sociétés privées américaines, et c'est peut-être un signe assez révélateur des valeurs de notre époque. En effet, dans le cadre de ce qu'on appelle le New Space, et dont nous avons déjà souvent parlé ici, la NASA, l'agence spatiale américaine, donc une structure étatique, sous-traite complètement à des sociétés privées certaines missions. On le connaît bien avec SpaceX, dont la capsule Crew Dragon propulse des astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale, l'ISS, dont Thomas Pesquet en avril dernier. Mais il y a aussi sa concurrente Boeing, avec sa capsule CST-100 Starliner, dont nous avons parlé le mois dernier, avec un nouvel essai raté le 3 août d'un vol inhabité jusqu'à l'ISS. D'ailleurs, je signale au passage que cette capsule a été retirée du pas de tir de Cap Canaveral, en Floride, pour retourner le 19 août dans les ateliers de Boeing, afin de pouvoir mieux analyser la défaillance du système de propulsion qui a conduit à arrêter le lancement. La même concurrence entre sociétés spatiales privées existe aussi dans le domaine du projet lunaire américain baptisé Artemis, où à côté du développement de son propre lanceur lourd, SLS, et en partenariat avec l'ESA, l'agence spatiale européenne, de la capsule Orion, la NASA coopère aussi à d'autres projets de lanceurs et de capsules pour compléter le dispositif. Ainsi, SpaceX, après de nombreux tests ratés, a enfin réussi le 5 mai dernier un lancement de son vaisseau Starship, qui est monté jusqu'à 10 km d'altitude avant de revenir se poser en douceur sans encombre, contrairement au prototype précédent qui s'était soit crashé, soit avait explosé. Ce vaisseau aux lignes futuristes, avec sa carrosserie, si je peux dire, en inox, est entièrement réutilisable, contrairement aux lanceurs actuels de SpaceX, les Falcon 9, où on ne récupère que le premier étage. Il est assez imposant, avec ses 50 mètres de hauteur, ses 9 mètres de diamètre, 1200 tonnes au décollage, et sa capacité d'emporter 100 tonnes, donc éventuellement de nombreux passagers, par exemple vers la Lune, car c'est l'un des objectifs de SpaceX qui prévoit de pouvoir le poser en douceur sur la surface de notre satellite et d'en redécoller. D'ailleurs, à la grande surprise des observateurs, puisque les prototypes étaient loin d'avoir prouvé leur fiabilité, la NASA avait choisi dès le 16 avril le Starship de SpaceX pour assurer de futures missions lunaires dans le cadre du programme Artemis. Bien entendu, ce choix n'a pas été du goût des sociétés concurrentes de SpaceX sur ce marché. Blue Origin, fondé par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, avec son projet d'atterrisseur lunaire Blue Moon, et Dynetix, avec son projet baptisé Human Landing System. Du coup, la bataille s'était déplacée sur le terrain juridique, car les deux sociétés avaient déposé une plainte contre la NASA auprès du GAO, Government Accountability Office, l'équivalent américain de notre Cour des comptes. Car la NASA devait en principe qualifier deux partenaires pour le programme lunaire Artemis et non pas la seule SpaceX. Et de plus, ces deux sociétés contestaient les évaluations de leurs propositions par rapport à celles de SpaceX. Le verdict du GAO est tombé le 30 juillet avec le rejet de ces deux plaintes, ce qui confirme définitivement le choix de SpaceX par la NASA. Suite à cette décision, Dynetix a accepté cet échec et semble vouloir orienter ses projets vers un autre volet du programme Artemis, le Lunar Exploration Transportation Services, c'est-à-dire les services de transport de matériel jusqu'à la Lune. En effet, vu les objectifs d'Artemis, qui visent à terme la construction d'une véritable base lunaire et son occupation permanente durant de longs séjours, il ne sera pas possible d'utiliser un seul vaisseau pour transporter à la fois les équipages et le matériel, comme le faisait Apollo dans les années 1970. Il est donc envisagé qu'une grande partie du matériel soit apportée sur la Lune par des vaisseaux automatiques sans équipage. Par contre, Blue Origin, donc Jeff Bezos, n'a pas renoncé à imposer son atterrisseur Blue Moon, se disant prêt, dans une lettre ouverte à l'administrateur de la NASA, à renoncer à une partie du financement, soit quand même 2 milliards de dollars, si un contrat était signé avec elle. À titre de comparaison, le contrat de SpaceX prévoit un financement de presque 3 milliards de dollars sur 4 ans.
Et où en est-on de ce projet Artemis et du retour sur la Lune ?
Alors, du côté de SpaceX, il y a eu une avancée en août avec l'assemblage de la plus grande fusée jamais construite. En effet, pour atteindre la Lune, son Starship, qui constitue la partie supérieure du lanceur, doit être propulsé par un très puissant premier étage baptisé Super Heavy, c'est-à-dire très lourd en français. Effectivement, c'est un gros bébé car il est doté de 29 moteurs Raptor, identiques aux 6 qui propulse le Starship. Il fait 69 mètres de haut, 9 mètres de diamètre pour une masse au décollage de 3600 tonnes. Donc le système complet avec le Starship installé au-dessus du Super Heavy constitue une fusée de 120 mètres de haut et presque 5000 tonnes au décollage, surpassant très nettement le plus gros lanceur jamais utilisé, la Saturn V du programme lunaire Apollo, qui faisait 110 mètres de haut et pesait dans les 3000 tonnes au décollage. Ou l'équivalent soviétique à une fusée qui s'appelait N1 qui avait des caractéristiques analogues. SpaceX a procédé à l'assemblage le 6 août dernier sur sa base de Boca Chica au Texas, le nez de l'engin culminant à 145 mètres car le lanceur reposait sur une plateforme de lancement située à 25 mètres au-dessus du sol. Pour donner une image, la pointe de cette fusée arriverait presque à la moitié de la tour Eiffel. Mais ce n'était qu'un essai de courte durée puisque le Starship a été redescendu par les grues environ une heure plus tard. C'est un préliminaire pour un futur lancement de test dont la date, à ma connaissance, n'a pas encore été fixée. De son côté, la NASA poursuit le développement de son lanceur lourd SLS, ce qui veut dire Space Launch System. Après un essai statique au sol des moteurs de son premier étage en mars, l'assemblage d'un SLS complet est toujours en cours au Kennedy Space Center en Floride. Le 19 août, l'assemblage a subi des tests de vibration pour vérifier ses fréquences de résonance et confirmer qu'elles ne créeront pas de problème au lancement, phase pendant laquelle les vibrations sont très intenses. Le 20 août, la capsule Orion était dotée de son dispositif de secours pour son éjection en cas de problème lors du décollage. C'était la dernière étape avant de la placer au sommet de la fusée SLS. Toutes ces opérations visent à réaliser un premier test sans équipage, baptisé Artemis 1, que la NASA prévoit toujours avant la fin de l'année, mais pas avant la fin novembre. Si le planning se déroule comme prévu, ce qui est rarement le cas dans les programmes spatiaux qui sont généralement victimes de retard, le vol Artemis 2 devrait propulser Orion jusqu'à l'orbite lunaire, mais toujours sans équipage, l'an prochain ou en 2023. Et c'est la troisième mission, en 2024, qui serait habitée et emporterait des astronautes jusqu'à la surface lunaire, avant que la deuxième phase du projet Artemis s'engage vers 2026, avec des installations permanentes sur notre satellite. Malheureusement, on sait déjà que le délai pour la première mission lunaire habitée, 2024, tel que fixé par Trump à l'époque, ne pourra pas être tenu car on a appris dans un rapport de la NASA publié le 10 août dernier sur la conception du nouveau scaphandre destiné aux explorations lunaires que ce dernier était en retard d'au moins 2 ans et ne sera probablement pas au point avant la mi-2025 au mieux. baptisé XEMU pour Exploration Extravehicular Mobility Unit, soit à peu près en français unité de mobilité pour l'exploration extravéhiculaire. Il constitue bien entendu un maillon crucial du programme Artemis pour permettre les déplacements des astronautes en toute sécurité à la surface de la Lune. Les raisons de ce retard semblent multiples, allant de coupes budgétaires à des difficultés techniques, en passant par les impacts de la crise sanitaire du Covid. Bien entendu, on peut s'étonner de ces difficultés alors qu'il y a plus de 50 ans, les missions disposaient déjà d'une combinaison destinée à l'exploration lunaire et qui avait même été adaptée dans les années 90 pour l'utiliser dans le cadre des missions des navettes spatiales. Mais le programme Artemis, visant à terme des missions lunaires de très longue durée, a des exigences bien plus élevées concernant ces nouveaux scaphandres, notamment en termes d'autonomie bien plus importante dans les 9 heures, de communication à haut débit, de légèreté et de mobilité pour les astronautes afin de leur permettre des mouvements plus complexes et délicats, ainsi que des facilités de maintenance et réparation pour pouvoir réaliser ces opérations directement à la base lunaire sans nécessité de rapporter le matériel sur Terre.
On va donner maintenant quelques informations des sondes explorant les planètes, si vous voulez bien, Michel.
Oui, le 10 août dernier, la sonde BepiColombo, Colombo, coopération entre l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, et la JAXA, l'Agence spatiale japonaise, a survolé de près la planète Vénus à environ 550 km d'altitude, soit guère plus que l'ISS par rapport à la Terre. Lancée en octobre 2018, son objectif est Mercure. Mais par une technique dont j'ai souvent parlé ici, la fronde gravitationnelle, c'est en s'approchant d'autres planètes qu'elle modifie sa trajectoire plus efficacement qu'avec des moteurs, pour dévier, accélérer ou ralentir. Elle a ainsi déjà survolé, si on peut dire, la Terre en avril 2020, puis Vénus une première fois en octobre 2020, et à l'avenir, elle s'approchera de Mercure à plusieurs reprises pour finalement se placer en orbite autour d'elle en décembre 2025. À chaque fois qu'elle s'approche d'une planète, c'est l'occasion de tester ses 13 caméras et instruments pour effectuer de nouvelles mesures, notamment de Vénus, qui n'est plus visitée depuis 2014 et la fin de la mission européenne Vénus Express. Les scientifiques attendaient notamment une analyse de l'atmosphère vénusienne par l'instrument MERTIS, un spectrographe à haute résolution dans l'infrarouge, ce qui permettrait de confirmer ou pas la découverte de phosphine annoncée avec fracas dans les médias en septembre par une équipe britannique, cette molécule pouvant être la signature d'une vie bactérienne dans les nuages vénusiens. Pour le moment, à ma connaissance, on n'a pas encore les résultats de cette analyse. Mais on peut voir une animation de ce survol à partir des photos noires et blancs prises par la sonde sur le site de l'ESA ou celui de Ciel et Espace. En fait, on peut même en voir deux, car par une simple coïncidence, environ 33 heures plus tôt, une autre sonde européenne a également survolé Vénus. Il s'agit de Solar Orbiter, en route pour se placer sur une orbite solaire, d'où il étudiera notre étoile lors de passages rapprochés entre septembre 2022 et 2030, et notamment en survolant les pôles du Soleil. Du côté de la NASA, il semble y avoir en ce moment une réflexion concernant le nom du futur télescope spatial, baptisé jusqu'à présent JWST, pour James Webb Space Telescope, le successeur du télescope Hubble, près de 3 fois plus gros et qui doit être lancé en novembre par une fusée Ariane 5 depuis Kourou en Guyane. En effet, le nom de James Webb a toujours suscité une certaine réticence auprès des astronomes, car il s'agit du deuxième administrateur de la NASA entre 1961 et 68, donc en pleine course à la Lune, et qui est décédé en 1992. Et c'est la première fois qu'on donne à un instrument spatial le nom d'un administrateur, pour ne pas dire d'un politique, et pas celui d'un scientifique comme c'est habituellement le cas. Par exemple, encore en mai dernier, où le futur WFIRST, un télescope infrarouge qui devrait être lancé en 2025, a été baptisé par la NASA Nancy Grace Roman pour rendre hommage à une astronome américaine qu'on considère un peu comme la mère du projet Hubble. En mars 2021, une tribune intitulée « Le télescope James Webb doit être renommé », j'ai traduit le titre en français bien sûr, avait été publiée dans la revue Scientific American. Elle y revenait sur ses positions homophobes et la véritable purge qu'il avait fait mener au sein de la NASA quand il la dirigeait pour écarter les employés LGBT, comme on dit aujourd'hui. Les 4 auteurs, des astronomes et astrophysiciens ayant demandé et obtenu des temps d'observation sur ce futur télescope, ont ensuite lancé une pétition « Renommons le télescope James Webb ». Toujours, j'ai traduit en français. Du coup, la NASA a lancé une enquête concernant le passé de James Webb, confiée au chef du bureau des archives. Si elle confirme le rôle obscur décrit par les auteurs de l'article et de la pétition, il est possible que l'administrateur actuelle de la NASA décide de rebaptiser ce futur grand télescope avant son lancement, donc dans les tout prochains mois.
Et alors, rien de nouveau sur Mars ?
Si, si, mais je gardais la planète rouge pour la fin de ces actualités, car j'y consacrerai aussi le thème du mois qui vient juste après. Tout d'abord, une info concernant Curiosity, le rover de la NASA qui explore la surface martienne depuis 9 ans. Il s'y est posé en août 2012. Elle ne le concerne pas directement, mais plutôt le site qu'il étudie, c'est-à-dire le cratère Gale, un cratère d'impact de 155 km de diamètre, dans lequel d'ailleurs le rover n'a parcouru jusqu'à maintenant qu'environ 25 km, qui avait été choisi parce que particulièrement intéressant du point de vue géologique, car ayant probablement accueilli un grand lac dans un lointain passé, tel qu'on pouvait le déduire des observations réalisées par des missions précédentes, et notamment les orbiteurs. C'est cette caractéristique qui est remise en cause par une étude publiée dans la revue Science Advance du 6 août dernier par deux chercheurs de l'université de Hong Kong, Joey Michalski et, alors en chinois ça ne paraît pas simple à prononcer, Jiacheng, je suppose, Liu. Ils avancent que la plupart des roches sédimentaires observées par Curiosity ne seraient pas formées au fond de l'eau, comme on le croyait jusqu'à présent, mais proviendraient de dépôts éoliens, c'est-à-dire transportés par le vent, ou volcaniques, altérés ensuite par des pluies acides il y a environ 3,7 milliards d'années. Pour arriver à cette conclusion, ils ont remis en cause la méthode d'analyse utilisée par l'équipe de Curiosity, qui est basée sur la mesure d'altération chimique des roches, qui selon convient bien aux roches terrestres, riches en calcium, potassium, magnésium, etc., mais beaucoup moins aux basaltes martiens. Et c'est en utilisant une autre méthode d'analyse, la diffraction des rayons X, qu'ils ont conclu que la plupart des composants de ces roches ne s'étaient pas érodés sous l'eau, mais sous l'effet de pluies acides. On aurait donc affaire à une région plutôt désertique qu'au bassin d'un ancien grand lac. Pardon. Mais cela ne remet pas totalement en cause la présence d'un lac dans le cratère Gale, notamment parce qu'on y a découvert certains dépôts argileux qui représentent toutefois une très faible proportion des échantillons observés par Curiosity. Par contre, le cratère J0, où s'est posé Perseverance en février dernier, semble lui avoir indiscutablement accueilli un grand lac, puisqu'il présente un grand delta de dépôts argileux.
Alors si j'en crois mes informations, Perseverance qui a quelques soucis a priori avec ces échantillons.
Alors en effet, nos auditeurs ont pu entendre début août cette information largement relayée par les médias. Perseverance a perdu son premier échantillon de sol martien. L'une des principales missions de ce rover est de forer dans le sol de la planète rouge pour en extraire des carottes, environ la taille d'un petit crayon, hein, 13 mm de diamètre pour 6 cm de long, pour les placer dans des tubes de stockage prévus à cet effet, au total il y en a 43, qui après avoir été soigneusement refermés, doivent être déposés sur le sol à la fin de la mission. Et, comme je l'avais expliqué en février, une future mission de la NASA baptisée SLR, Sample Retrieval Lander, ou atterrisseur de récupération d'échantillons, en français, devra les retrouver, en principe vers 2028-2029, pour les envoyer avec une petite fusée jusqu'à Hero, pour Earth Return Orbiter, ou Orbiter pour le retour sur Terre, une mission de l'ESA qui sera chargée de nous les rapporter pour les analyser dans les laboratoires terrestres, avec toutes les techniques disponibles, bien plus précises et sophistiquées que les mini-labos qu'on peut embarquer sur les sondes. Malheureusement, malgré tous les tests qui avaient été réalisés sur Terre, la collecte du tout premier échantillon par Perseverance a raté. Le bras robotisé semble avoir réalisé correctement toutes les opérations de forage, carottage et remplissage du tube d'échantillon, mais après vérification, on constate que rien n'a été prélevé. Et la carotte n'est pas non plus restée dans le trou foré comme on l'a aussi vérifié. Faute d'une meilleure explication, on pense que c'est la qualité de la roche forée qui pourrait expliquer ce mystère. Bien plus friable qu'attendu, elle a pu être pulvérisée lors du carottage et il n'y avait en fait aucune carotte à extraire, les fins débris étant amoncelés au fond du trou et à sa périphérie. Cette hypothèse pourra être confirmée lors de la prochaine tentative sur un autre échantillon qui se comportera différemment, on l'espère. A noter que le site de forage, une pierre en forme de pavé, avait été déterminé par le 11e vol de repérage du drone Ingenuity le 5 août, la veille de l'opération.
Alors si vous le voulez bien Michel, on va continuer en parlant des missions martiennes en cours. Je crois que vous le voulez bien Michel.
Voilà, il m'est venu l'idée de ce thème en constatant qu'on a toujours tendance à parler de la dernière mission. Donc Perseverance, hein, sans oublier la chinoise Tianwen 1 et son rover Zhurong, en négligeant de préciser que d'autres missions se poursuivent souvent depuis plusieurs années, comme par exemple Curiosity. C'est d'autant plus vrai pour Mars, qui est l'objectif de nombreuses sondes, contrairement aux autres planètes qui sont plus ou moins négligées, comme Mercure et Vénus, ou qui présentent plus de difficultés pour être atteintes vu leur grande distance à la Terre, comme Jupiter ou Saturne, pour lesquels les trajets durent dans les 5 à 7 ans. Quand elle est proche de sa période favorable de l'opposition, environ tous les 2 ans, Mars peut être atteinte en environ 6 mois seulement. De plus, comme l'un des moteurs de l'exploration spatiale est la recherche d'une éventuelle vie extraterrestre, dont on suppose qu'elle nécessite la présence d'eau liquide comme la vie terrestre, cela fait de Mars une cible privilégiée, car nos connaissances accumulées au fil des explorations successives démontrent qu'elle a connu dans le passé une période faste avec une atmosphère dense et un océan qui la faisait ressembler à la Terre. Les autres corps du système solaire ayant potentiellement des caractéristiques aussi intéressantes que Mars dans cette quête sont des satellites de Jupiter et Saturne beaucoup plus difficiles à atteindre. Je me propose donc de faire un petit inventaire des engins qui sont actuellement actifs dans l'étude de la planète rouge pour montrer que nous la scrutons sous différents aspects et avec des moyens variés. Si l'on commence par les rovers, donc des atterrisseurs posés en douceur à la surface et qui sont équipés de roues pour pouvoir se déplacer, la dernière vedette de la NASA est bien entendu Perseverance, qui est arrivée en février dernier. De la taille d'une Jeep, avec une masse d'environ 1 tonne, il a des caméras qui culminent à plus de 2 mètres de haut, perchées au sommet d'un mât. Il est aussi équipé d'un bras robotisé de 2 mètres qui supporte plusieurs instruments et notamment les dispositifs de forage dont nous venons de parler. Comme son prédécesseur Curiosity, il possède un dispositif de tir laser et des caméras lui permettant d'analyser à distance la composition chimique des roches afin de savoir si elles méritent une étude plus rapprochée et éventuellement un forage. Dans sa mission, il est assisté par un petit drone hélicoptère Ingenuity d'environ 2 kg qui, après des vols de test, hein, je rappelle que c'était la première fois qu'on faisait voler un engin dans l'atmosphère d'une autre planète que la Terre, peut maintenant être utilisé comme dispositif de reconnaissance pour repérer les sites et roches intéressants que le rover pourrait aller visiter. Les principaux objectifs de cette mission sont bien entendu l'étude géologique des terrains parcourus, du sous-sol avec le radar RIMFAX, de l'atmosphère avec plusieurs autres instruments et la première récolte d'échantillons qui devrait être rapportée sur Terre par de prochaines missions comme je viens de l'expliquer. Arrivée presque au même moment, la mission chinoise Tianwen-1 s'est d'abord placée en orbite autour de Mars, où son orbiteur se trouve toujours, pour étudier l'atmosphère et notamment ses variations saisonnières ou lors des alternances jour-nuit. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, le 5 mai, qu'elle a déposé en douceur son atterrisseur d'environ 1 tonne, et surtout son petit, en comparaison à Perseverance, rover Zhurong de 240 kg. Pour l'agence spatiale chinoise, la CNSA, c'était une première pour démontrer leur capacité à réaliser ces différentes opérations sur Mars en profitant de l'expérience acquise avec les sondes lunaires Chang'e et leur rover Yutu. Zhurong doit bien entendu fournir des images de la surface martienne, mais il est aussi équipé d'instruments complétant ceux de l'orbiteur. Spectromètre pour l'analyse de la composition chimique des sols, magnétomètre pour étudier le champ magnétique, radar pour le sous-sol et détecteur de particules. Nos auditeurs peuvent penser que ça fait sans doute un peu doublon avec les équipements d'autres sondes déjà sur Mars, mais il y a un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est l'immensité de ce monde à explorer. Par une coïncidence curieuse, la surface de Mars est à peu près la même que la somme de tous les continents terrestres. Donc nos atterrisseurs dispersés ici ou là, et même les rovers qui ne parcourent que quelques kilomètres, ne font qu'effleurer une toute petite partie de la planète. Et le fait d'avoir éventuellement les mêmes instruments et mesures sur des sites différents ne constitue pas réellement une redondance des données. Pour donner une image qui vaut ce qu'elle vaut, c'est un peu comme si on découvrait la Terre avec une sonde posée au Groenland, une autre dans le Sahara et une troisième en Amazonie. Outre la diversité biologique qui n'existe pas sur Mars, ces environnements présentent des caractéristiques géologiques, d'atmosphère ou de climat très divers.
Et il y a d'autres sondes encore actives à la surface de Mars, comme par exemple Curiosity, me semble.
Voilà, effectivement, la NASA a déjà posé pas mal d'engins à la surface de la planète rouge et comme ils ont souvent la bonne idée de fonctionner bien plus longtemps que prévu, souvent des années pour une mission initiale généralement prévue sur quelques mois, il y a donc des sondes plus anciennes encore en activité, à commencer par le rover Curiosity, effectivement, posé depuis août 2012. Assez semblable dans sa conception à Perseverance, pour lequel il a servi de modèle, il possède des instruments assez semblables, excepté le dispositif de collecte d'échantillons, mais il a aussi un système de forage pour analyser les roches après les avoir étudiées à distance avec sa ChemCam, qui vaporise leurs composants en tirant dessus avec un laser puissant. Au passage, je rappelle que cet instrument, comme celui qui équipe Perseverance, qui s'appelle la SuperCam, ont été conçus et réalisés sous la direction du CNES français, le Centre National d'Études Spatiales. La mission de Curiosity était principalement l'étude géologique du terrain dans une zone particulièrement intéressante, le cratère Gale, et surtout les pentes de son monticule central, baptisé Mont Sharp, haut de 5000 mètres, dont les orbiteurs précédents avaient montré qu'il permettait d'explorer sur son épaisseur une longue histoire de la géologie martienne. Pour ce qui concerne les rovers, c'est tout, car les missions plus anciennes sont terminées, soit parce qu'on n'est plus en mesure de contacter les engins, comme Opportunity, dont les panneaux solaires ont sans doute été recouverts de poussière par une tempête en 2018, soit parce qu'ils ne sont plus en état de fonctionner, comme son jumeau Spirit, qui s'est enlisé dans une dune en 2009. Tous les deux exploraient la surface de Mars depuis 2004, alors que leur mission initiale était seulement de 3 mois. Mais il y a aussi d'autres atterrisseurs fixes qui ne sont pas dotés de dispositifs pour se déplacer. On trouve dans ce cas InSight, une sonde de la NASA posée en 2018 et dont l'objectif était l'étude du sous-sol et de la structure interne de la planète. Cette mission n'est qu'un demi-succès, car si le sismomètre SEIS, conçu aussi par le CNES, a bien fonctionné et continue ses mesures actuellement, sa sonde thermique HP3 de l'agence spatiale allemande n'a jamais réussi à s'enfoncer dans le sol comme c'était prévu et les efforts pour y parvenir ont définitivement été abandonnés en janvier dernier. L'autre catégorie de sondes martiennes sont les orbiteurs qui ont l'inconvénient d'étudier la planète de plus loin mais possèdent l'avantage d'en survoler et photographier de très grandes surfaces. Les derniers arrivés sont l'orbiteur de Tianwen 1 dont j'ai parlé avant et Al-Amal ou Marsop en anglais des Émirats Arabes Unis, un engin de 1 tonne 3 lancé avec l'aide de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, est arrivé en février dernier. Il a pour objectif l'étude de l'atmosphère et du climat de la planète. De leur côté, les Européens avaient envoyé la sonde ExoMars lors de la précédente opposition, mais c'était un demi-échec car la partie atterrisseur, baptisée Schiaparelli, s'était écrasée à la surface. Par contre, la partie orbiteur, TGO pour Trace Gas Orbiter, s'est bien mise en orbite en octobre 2016 et continue à étudier l'atmosphère martienne, notamment la présence de méthane. Il est prévu de terminer cette mission en 2022. Également chargé d'étudier l'atmosphère martienne, le satellite MAVEN de la NASA orbite depuis septembre 2014. Il avait été rejoint 3 jours plus tard par Magalayan, ou Mars Orbiter Mission en anglais, la première mission indienne vers Mars, elle aussi destinée à l'étude de l'atmosphère, mais d'une taille plus modeste, environ 500 kg contre 1 tonne pour MAVEN. Mais il y a encore en service des orbiteurs plus anciens, comme MRO, Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui a rejoint Mars en 2006. On connaît ces belles photos à haute résolution qui montrent certains phénomènes se déroulant à la surface de Mars, comme des glissements de terrain ou des avalanches sur des falaises abruptes, ou des sortes de tornades appelées Dust Devils, ou tornades de poussière en français, ou encore des traces de coulées laissées par des jaillissements boueux récents. Il a aussi clairement mis en évidence des formations prouvant l'écoulement de l'eau liquide dans le passé de la planète. Avec les autres instruments équipant cet engin d'environ 1 tonne, un spectromètre, un radiomètre et un radar, il a aussi étudié la surface de Mars et permis d'établir de véritables cartes géologiques des différents terrains qu'on y rencontre, sur lesquels ont été basés les choix des sites d'atterrissage pour les missions ultérieures. Il joue d'ailleurs aussi le rôle de relais de télécommunication pour l'envoi de leurs données vers la Terre. L'ESA possède aussi un orbiteur étudiant la surface et aussi l'atmosphère, toujours en service, Mars Express, d'environ 600 kg, la première sonde de cette agence envoyée vers une autre planète et qui s'est mise en orbite autour de Mars en décembre 2003. Comme pour la plus récente ExoMars, cette mission comprenait aussi un atterrisseur nommé Beagle 2, avec lequel on n'a jamais pu établir de liaison. On pensait qu'il s'était écrasé jusqu'à ce qu'en janvier 2015, MRO le retrouve partiellement déployé à la surface. Il semble donc qu'il avait réussi son atterrissage, mais qu'il n'a pas correctement déployé ses instruments, d'où l'impossibilité pour lui de communiquer avec les orbiteurs. Et enfin, la palme de la mission la plus ancienne encore opérationnelle autour de Mars revient à l'orbiteur américain 2001 Mars Odyssey, qui, comme son nom l'indique, a été lancé en 2001 pour se mettre en orbite autour de la planète rouge en 2002. C'est une mission typique du programme baptisé « Better, Faster, Cheaper », c'est-à-dire « Meilleur, plus rapide et moins cher », un concept général pour des petites missions de la NASA dans les années 1990, sans doute hérité de la période Reagan, où on essayait de faire des économies sur les structures d'État. Il s'agit donc d'un engin assez modeste, dans les 400 kg, dont les objectifs étaient d'étudier la distribution des minéraux et des éléments chimiques à la surface de Mars, et bien entendu d'essayer de détecter l'éventuelle présence d'eau. Il est aussi utilisé comme relais de communication vers la Terre. Et comme on le voit, cela fait maintenant presque 20 ans qu'il étudie la planète rouge avec succès. Et voilà la liste complète qui permet de constater que si les médias braquent souvent leurs projecteurs sur les dernières missions lancées, donc peut-être un peu plus à la mode, comme actuellement Perseverance ou Tianwen 1, il y a plusieurs engins encore actifs à la surface de Mars ou en orbite autour d'elle. Sauf erreur, notre inventaire contient 3 rovers, 2 atterrisseurs fixes si on compte celui de Tianwen, et pas moins de 8 satellites encore en activité.
Merci Michel, et puis vous voyez, pas tous les médias, nous on vous donne la parole pour voilà. Parler des autres missions et des plus anciennes missions qui sont nombreuses, j'en suis épaté, puisqu'on ne le sait pas toujours, effectivement.
Mais comme j'ai dit, Mars c'est un peu une cible privilégiée, hein, dans la recherche de vie dans l'espace.
Et alors la Lune aussi, je suis assez étonné de l'ensemble des recherches qu'il y a dessus. Ouais, des missions.
Ouais, enfin ça fait quand même longtemps qu'on n'y est pas retourné, ça fait presque 50 ans, donc il serait peut-être temps de s'y intéresser, parce que par rapport à Mars, où on met à peu près 6 mois pour y aller quand la période est favorable, c'est-à-dire quand les deux planètes sont les plus proches, qui arrivent à peu près tous les 2 ans, la Lune c'est la maison d'à côté, à l'échelle du système solaire, on met 2 jours ou 3 jours pour y aller. Donc les missions Apollo par exemple c'était une semaine, 3 jours pour y aller, 1 jour sur place et 3 jours pour revenir. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller sur la Lune que sur Mars.
Bon, on espère un jour aller sur la Lune aussi, nous, si on n'y est pas tous les jours en fait. Michel, on termine avec le ciel du mois ?
Voilà, comme chaque mois, hein, je vais renvoyer nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois aussi, de la section astronomie de notre site web. Je rappelle que c'est www.constellationsetgalaxies.org. où ils pourront trouver les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. C'est toujours difficile de montrer des cartes à la radio. Je la mettrai à jour pour septembre, cet après-midi ou demain. Pour le moment, c'est encore août qui est en ligne. L'été n'est pas vraiment la période la plus favorable pour observer le ciel, avec des nuits très courtes et souvent commençant très tard. Mais en approchant de l'automne, septembre nous ramène à des horaires un peu plus raisonnables. En ce moment, le soleil se couche un peu après 20h30 et la nuit arrive vers 10h moins quart, 10h15 si on attend un ciel bien noir. À la fin du mois, le coucher sera vers 8h moins quart et la nuit vers 9h moins quart. Comme nous sommes encore en été, en tout début de nuit, ce sont les constellations typiques de la saison qui occupent la plus grande partie du ciel vers le sud et celles de l'automne qui commencent à pointer vers l'est. Et cette situation évoluera très peu au cours du mois, car le décalage progressif du ciel vers l'ouest, jour après jour, sera pratiquement compensé par le raccourcissement des jours et le début de nuit survenant de plus en plus tôt. La voûte étoilée est dominée par la figure caractéristique du triangle de l'été, formé par 3 étoiles brillantes qui sont visibles dès le crépuscule et permettent facilement de situer les 3 constellations auxquelles elles appartiennent. Vega, de la Lyre, la plus brillante et la plus haute, presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête. Altaïr, de l'Aigle, nettement plus basse au sud-est. Et enfin Deneb, du Cygne, la plus à l'est des 3. Dans un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse de nos éclairages, on peut facilement distinguer le ruban laiteux de la Voie lactée, notre galaxie, dont un morceau parcourt le Cygne et le prolonge, tandis que l'autre descend le long de l'Aigle et devient très lumineux en approchant du Sagittaire, constellation reconnaissable à sa figure ressemblant à une théière, proche de l'horizon sud, juste à côté du Scorpion. À l'est, c'est la constellation typique de l'automne, Pégase, qui se lève, accompagnée d'Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel, et on peut déjà l'observer comme une petite ellipse laiteuse dans une simple paire de jumelles. Côté planète, nous avons toujours la très brillante Vénus, qu'on peut observer côté ouest dans le crépuscule, assez basse et couche dès le début de nuit, c'est-à-dire en ce moment vers 22h. Ce sera analogue tout le mois, même si la nuit survient de plus en plus tôt. Pratiquement à l'opposé, côté est, on aperçoit l'autre phare dans le ciel qui est Jupiter. Au cours du mois, elle se décalera vers le sud et sera de plus en plus haute, donc observable dans de meilleures conditions. Dans une simple paire de jumelles, on peut apercevoir ses 4 principaux satellites. Plus à l'ouest, environ une fois et demie la largeur d'une main bras tendu, et plus discrète se trouve Saturne. Pour voir ces anneaux, il faut déjà un petit instrument d'astronomie, lunette ou télescope. Comme chaque mois, il y aura quelques conjonctions de la Lune avec ses planètes. Le jeudi 9, donc dans une semaine, un fin croissant accompagnera Vénus dans le crépuscule jusqu'à son coucher. Et le lendemain, il sera à peine plus éloigné, mais situé de l'autre côté de la planète. Il faudra ensuite patienter jusqu'au jeudi 16 pour voir la Lune gibbeuse proche de Saturne, puis le lendemain vendredi 17 entre Saturne et Jupiter, formant un triangle assez régulier avec les deux planètes, puis le surlendemain samedi 18 être plus proche de Jupiter. Et enfin, un dernier événement astronomique, mais qui joue un rôle dans notre calendrier, l'équinoxe d'automne. Le mercredi 22, où le Soleil franchira le plan de l'équateur à 21h21, précisément, marquant ainsi le début officiel de l'automne, du moins pour nous dans l'hémisphère nord, mais du printemps dans l'hémisphère sud de la Terre. Notre prochaine chronique devrait être le mercredi 29, renouant donc avec notre rendez-vous habituel du dernier mercredi du mois, et nous en parlerons sans doute avec des invités des clubs d'astronomie locaux, comme Corinne d'AG33, des animations de début octobre, à l'occasion de la fête de la science et du jour de la nuit, une manifestation nationale visant à alerter le public sur le problème de la pollution lumineuse. Thème que nous ne manquerons pas d'aborder.
Eh ben, on a hâte d'être donc au mercredi 29 septembre, de revenir au dernier mercredi du mois pour votre chronique. Ça sera la numéro 79. Ouais. En tout cas, merci Michel Favré, parce que c'est un sacré travail que vous fournissez chaque mois de recherche pour pouvoir animer cette chronique. Donc encore
mais
merci
mais
à vous.
Comme je l'ai déjà dit, c'est aussi intéressant pour moi, parce que finalement, ça m'oblige un peu plus à me tenir au courant de l'actualité, ne serait-ce que pour rédiger la chronique. Et par rapport au numéro 79, on a commencé en 2014, en septembre 2014, donc ça fait bientôt 7 ans.
Bientôt 7 ans, Michel.